Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, j'ai beaucoup vécu avec ces dernières années, je me suis beaucoup demandé, est-ce que parfois, c'est mieux de ne pas dire ? Et je n'ai jamais rencontré de oui. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, c'est une réponse empirique, je n'ai pas mis les traumas en éprouvette, injecté des mots dedans pour voir s'ils désagrégeaient la douleur, mais ce sont les seuls apaisements que j'ai rencontrés, les seules portes ouvrant sur des chemins, pas forcément faciles, mais plus joyeux et plus libres. Vous écoutez notre mini-série sur les discussions compliquées. Cet épisode, qui contient des moments de violence difficiles à entendre, a été tourné par Capucine Rouault. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans Passage.
Alors, j'y ai longtemps réfléchi avant cette conversation, de me dire comment est-ce que tu vas considérer tes parents, comment est-ce que tu vas les voir, comment ils vont te voir. Le fait d'avoir parlé à mes parents, c'est honnêtement le moment et le souvenir le plus important de ma vie.
J'aurais aimé qu'elles le disent plus tôt et pas tant d'années. Parce que je pense que le traumatisme, déjà, plus on attend, plus il est grand. Donc, j'aurais préféré qu'elles me le disent avant et dès le départ, parce que peut-être les choses ne seraient pas faites de la même façon.
Au départ en Angleterre, j'ai 8 ans, je suis en CP, à la fin du CP, et mes parents m'annoncent que nous déménageons. L'autre côté de la Manche me paraît très très loin. Donc voilà, je pars pour 2 ans, je rentre en France, j'en ai 10, je rentre en CM1, c'est en janvier après les vacances de Noël, et vraiment je me vois rentrer dans cette cour, et tout le monde me regarde un peu avec l'air de dire « qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle n'était pas partie, pourquoi elle revient ? Un peu, c'est quoi cette histoire ?» Et je me sens direct très seule.
Nous sommes sur Saint-Étienne et donc je m'occupe de mes deux filles quotidiennement. J'ai toujours eu une bonne relation avec Emma. C'est toujours été une enfant joyeuse et épanouie, grand sourire, qui arrivait à la maison contente, qui repartait à l'école contente, qui était d'ailleurs très scolaire, qui aimait l'école.
Je me revois, elle vient me chercher, par exemple, devant l'école, tous les soirs. Elle est là, ça fait partie un peu du gang des mamans au foyer qui sont toujours là à l'heure, avec le goûter à la main et qui nous attendent avec impatience qu'on sorte de l'école, d'ailleurs. Et quand on me demande comment s'est passée ma journée s'est très bien passée. Je suis sage, Mais après tout, j'ai pas de raison de faire de bêtises puisque je suis seule à jouer dans la cour. En fait, je marche le long de la cour pendant les récrés toute seule. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas grand-chose à raconter, si ce n'est que j'ai eu un point vert en français et un point rouge en maths. Mais sinon, c'est tout.
Donc Emma a fait toute sa scolarité dans la même école, comme maternelle et primaire. Tous les enfants, ou beaucoup d'enfants, suivi le même cursus dans le même collège, qui était un collège donc rural, ou qui regroupait plusieurs écoles primaires des villages alentours. C'était quand même un collège où il y avait à peu près, je pense, plus de 500 élèves. Donc ils se connaissaient tous. Bon, à cet âge-là, c'est facile aussi, dès la sixième, de se faire des copains de classe. Donc après, elle avait aussi des copains ou des copines qui venaient d'autres écoles primaires. Mais il y en avait quand même une grosse partie qu'elle connaissait de par son ancienne école primaire.
Quand je suis au collège, quand je pars avec le bus le matin, que maman me dépose à l'arrêt le matin, c'est comme si j'enfilais une autre identité ou un masque. Donc maman me souhaite une bonne journée, je lui réponds à elle aussi, et je rentre dans ce bus et je suis totalement fermée. Il n'y a plus d'émotion qui transparaît, je suis comme un mur, je ne souris pas. Je ne pleure pas, je ne me mets pas en colère, je suis juste presque livide, on pourrait dire. Et le soir, quand je rentre, c'est la même chose sur le trajet inverse. Et quand je descends du bus, je vois maman et je me force à sourire. Je vois ma sœur, je me force à sourire aussi, parce que pour moi, elles ne doivent pas deviner et il est hors de question qu'elles devinent. Alors au départ, c'est surtout moral, dans le sens où ça va être des insultes, où on va un petit peu m'attraper du regard, puis ensuite m'interpeller, me dire un peu de tout. Et progressivement, donc comme je ne répondais plus, on m'interpelle cette fois physiquement, donc le harcèlement devient physique. Donc je deviens un peu le ballon de jeu au milieu de la cour de récré, donc c'est-à-dire que je peux avoir 30 élèves autour de moi et qui s'amusent à me balancer les uns contre les autres, à me faire tomber, à me marcher dessus, à me bousculer contre les murs, à me bloquer entre les portes. Et comme je suis déjà pubère en rentrant au collège, j'ai des formes, j'ai de la poitrine, j'ai des hanches, j'ai quelques poils qui poussent aussi sur les jambes. En fait, on matérialise un peu mon corps et on s'amuse à le toucher comme si j'étais une simple poupée. Après être le ballon, je suis passée à la poupée. Et vraiment, on me touche de partout. On m'attrape les fesses, les seins, on me tire les cheveux. On me force à embrasser des garçons. On me force à les toucher à des endroits où je voulais pas les toucher, des endroits très intimes. C'est quelque temps moral et physique, mais c'est surtout sexuel.
Étant présente et la voyant matin et soir, pour moi, elle me raconte sa vie et je ne vois aucun élément perturbateur dans ce qu'elle me raconte.
On est dans une fratrie, on est deux filles, on a 3 ans d'écart. On découvre qu'elle a une surdité profonde. Et je considère très tôt que son handicap est beaucoup plus grave que ce qui se passe pour moi. Moi, mes problèmes sont juste des problèmes d'adolescente, ça passera. Et c'est ce qui fait un peu la clé de voûte, pourquoi je ne parle pas. Comme je suis quand même très petite, quand les marques de violence sont vraiment imprégnées sur mon corps, j'ai entre 10 et 12 ans et j'ai du mal en fait à les cacher parce que je n'ai pas de maquillage. Mais c'était surtout sur l'ensemble de mon corps plus que sur mon visage que j'essayais par réflexe de protéger pour pas justement que ça se voit à la maison. Et sinon en hiver c'était caché par tout moyen. Donc refuser, même quand il faisait très chaud dans une pièce, d'enlever mes vêtements, refuser de mettre des jupes et des robes parce que j'avais peur qu'on me voie mes traces sur le corps. J'avais aussi peur qu'on me l'enlève puisqu'on l'avait déjà fait. Donc c'était un petit peu des réflexes qui s'étaient instaurés comme ça. Et sinon c'était vraiment très souvent de très grosses écharpes, des manches qui allaient jusqu'au bout des doigts, le jean qui allait vraiment presque en bas des talons, et je cachais ça par tout moyen.
Je remarque à son entrée plus en cinquième, mi-cinquième on va dire, comportement, on est convoqué par un prof suite à son comportement. Ses notes baissent un petit peu, mais tout en restant vraiment d'un bon niveau. Et je mets ça sur le compte de la crise d'adolescence, 13 ans, un âge pas facile à vivre pour la plupart des adolescents. Donc je le mets sur ce compte-là.
Je commence à avoir des idées noires au milieu de l'hiver de ma 5e, donc ça fait un an et demi que je suis au collège. Ça fait un an que ça a commencé et je le vis de plus en plus mal. Je prends sur moi, mais je comprends bien qu'à un moment donné, ça va exploser. L'hiver est rude, je mange de la neige souvent, je mange les murs aussi, des poings, des coups, des insultes. Je me sens enfermée dans une cage dont je ne peux pas me libérer finalement, parce que si je ne parle pas, je ne peux pas m'en libérer. Mais je refuse de faire du mal à mes parents, et à ma sœur, et à ma famille en général. J'attends que les journées passent, et je m'éteins petit à petit, et il y a un moment donné où je ne me relève pas. Donc au milieu de l'hiver, je commence à me dire qu'il va falloir y mettre un terme, je ne sais pas comment. Il va falloir que je trouve un moyen. Le moyen, c'est la fenêtre de ma chambre, que je regarde longuement en me disant quand, comment, pourquoi. Est-ce que tu as les bonnes raisons de faire ça? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Et je fixe une date. Et je me dis, en rentrant du collège ce soir, ça sera là. Et ce matin-là, je descends prendre le petit déjeuner dans la cuisine avec ma maman et ma petite sœur, comme tous les matins. Et elles sont sur la table de la cuisine. Et elles sont mortes de rire. Et elles rient aux éclats. Et il neige dehors. Et il fait vraiment un temps atroce. Et moi, j'ai mes émotions qui me pèsent très lourdement. Et je les vois rire. Et c'est cette action toute simple qui fait que j'ai comme une lumière. Et je me dis, mais tu peux pas les laisser toutes les deux, toutes seules. Je peux pas abandonner maman et ma petite sœur comme ça. J'ai pas le droit. Et je me dis qu'il y a d'autres façons de remédier à mes soucis.
À partir de ses 14 ans, ça ne change pas. Mais elle a une envie de partir, de voyager. Donc, on est une famille de voyageurs. Donc, ce n'est pas pour moi un élément déclencheur de me dire « elle veut partir, elle veut fuir quelque chose ». Alors, en troisième, elle fait ce voyage aux États-Unis dans le cadre des vacances. Nous partons aussi en famille aux États-Unis, en vacances. Et suite à ça, je sens à elle son envie de faire ses études à l'étranger, de voir ailleurs ce qui se passe. L'entrée en seconde, je sens que c'est plus angoissant pour elle. Elle change donc forcément de structure, elle passe du collège au lycée. Pour moi, c'est tout à fait normal, on rentre dans la cour des grands, elles connaissent moins de personnes dans le lycée, donc je trouve ça normal qu'il y ait une petite angoisse à l'entrée en seconde au lycée.
Je dis rapidement à mes parents que j'aimerais aller dans un lycée public qui est très très loin de là où est mon collège actuellement, et mes parents maintiennent ce choix de me mettre en établissement privé. Seulement, il dépend du collège où je me trouve. Je refuse. Il est hors de question. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Maman, ça va pas aller. Maman, ça va être nul. En fait, je ne veux pas y aller parce qu'il y a une grosse partie des élèves de mon collège qui vont aller dans ce lycée privé. J'ai tellement peur que ça se répète, encore pendant 3 ans, que je fais des crises à ma mère en disant « il est hors de question d'y aller ». En refusant de parler pendant une heure, en boudant dans mon coin. Mais bon, finalement, mes parents me laissent pas le choix. C'est eux qui prennent les décisions. Et donc, je vais dans cet établissement, en ville.
Le lycée également se passe bien. Je sens qu'elle a de la pression dans sa volonté qui date donc du collège de partir faire ses études à l'étranger. Donc des fois son comportement, on va dire, d'être angoissé, stressé, pour moi je le mets sur le compte de son stress scolaire. Donc à la fin du lycée, elle a son bac avec donc mention bien. La mention bien était nécessaire pour pouvoir faire ses études à l'étranger.
Je me revois ce jour de bac, seule, à nouveau, aucun ami avec moi. Mes parents n'étaient pas présents ce jour-là. Et je me revois derrière ce panneau, voir mon nom et mon prénom, mention bien, et hurler de tout l'air possible qu'il y avait dans mes poumons, de joie et de soulagement. Je sais que c'est une porte qui s'ouvre sur une nouvelle vie et une vie plus apaisée. Je sais que ça va commencer à partir de là.
Moi, je suis contente parce qu'elle réalise son rêve de comme une maman qui voit ses enfants en fait s'épanouir. Et donc, elle part faire ses études à l'étranger pendant 2 ans avec une joie immense. Elle réalise son rêve.
Quelques semaines après, je me mets en couple avec un garçon. Au début, ça se passe très bien, très fleur bleue. Je pense, sur le moment, qu'on s'aime beaucoup. En fait, c'est pas de l'amour. C'est une relation très, très toxique qui s'installe, très oppressante. Je pensais être proche de ce garçon, et c'est pour ça qu'un jour, je finis par lui dire je crois que je vais pas bien, et je... Je crois que c'est à cause de ce qui s'est passé au collège. Donc il me pose des questions, il me demande ce qui s'est passé au collège. Je lui raconte. Et donc mon copain me dit « Il est hors de question que tu dises ça à tes parents. Tu vas les tuer de douleur. » Et cette expression « tuer de douleur », elle m'est restée les premiers temps. Et je me suis dit « Effectivement, il est hors de question de faire du mal à tes parents. Tu peux pas leur faire ça. Ils t'ont jamais fait mal. Tu peux pas leur faire mal. » Et un jour, j'écoute un podcast... Donc sur un journaliste qui raconte le harcèlement scolaire qu'il a vécu, lui, au collège, il y a 20 ans de ça, lié à son homosexualité. Il raconte, et tout ce qu'il raconte me parle. Et je me dis, c'est le moment d'en parler. C'est ça la clé. C'est ça qu'il faut que tu dises à tes parents. Si tu n'arrives pas directement à dire à tes parents, papa, maman, j'ai été harcelée, il faut que tu utilises un moyen de leur dire. Donc je leur envoie le podcast. Quand j'envoie le podcast à mes parents, je leur envoie un screenshot et je leur demande de remplacer les mots donc PD et gay par grosse et riche. Donc c'est là qu'ils comprennent qu'il y a un problème et ils me disent c'est mon papa qui m'envoie un message et qui me dit on aura une conversation avec maman dans la semaine, quand est-ce que tu es libre?
En combien de cet appel FaceTime? Un jeudi soir à 9h. Sa sœur est couchée, donc je m'installe sur le canapé avec ma tablette. Une journée comme une autre vient de se passer, il est 9h du soir.
Donc je rejoins le FaceTime avec mes parents, je les vois tous les deux, chacun dans leur canapé. Pour moi, il fait encore jour, pour eux, il fait déjà nuit depuis longtemps. Je suis dans ma chambre d'étudiante, il pleut de nouveau dehors, il fait gris, ça transparaît sur mes émotions d'ailleurs à ce moment-là. C'est vraiment un moment compliqué et pendant une microseconde, je me dis « c'est pas possible ». Et mes parents commencent à lancer la conversation et papa me dit « est-ce que tu peux nous raconter ?» Et je me rends bien compte que je ne peux pas parler comme ça, donc je leur demande de me poser des questions.
Son papa commence à lui poser des questions. Mes questions, pour ma part, sont pourquoi ? Pourquoi ? Mais une question revenait beaucoup sur, avec un début de pourquoi ? Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Mais pourquoi tu as attendu si longtemps ? C'est pour moi de l'incompréhension, d'autant plus que je la vois tous les jours. Bon, pas à 19 ans puisqu'elle est en études à l'étranger, mais avec des appels quotidiens, je ne comprends pas pourquoi elle ne nous l'a pas dit avant. Presque toutes ces années, ça ne se résumait pas en quelques minutes. Donc, je pose beaucoup de questions, son papa aussi. Elle déroule le fil de l'histoire au travers de nos questions.
Ça fait quelques jours depuis que je sais que je vais leur parler, que je suis malade. J'ai un corps courbaturé, très lourd. Je ne me lève pas, pratiquement pas de mon lit la journée. J'aurais pu m'enterrer 6 pieds sous terre, je l'aurais fait. Puis à la fois, il y a ce sentiment d'avoir envie de se taper la tête contre les murs et de dire qu'est-ce que je suis en train de faire et pourquoi je suis là. Et de l'autre côté, il y a ma poitrine qui, peu à peu, paraît plus légère au fur et à mesure où je parle. Et je me sens pas comme un poids plume, mais presque. Et je commence à respirer petit à petit, malgré les sanglots, malgré les crises de larmes que je suis en train de faire pendant cette conversation. Ça va mieux et je sens que je suis presque toute vaporeuse, puisque les émotions m'ont tellement pris à bras le corps que maintenant, je suis toute légère et j'arrive à penser légèrement, à vivre beaucoup plus légèrement.
Je ne pleure pas, j'écoute, j'écoute. Je suis vraiment à l'écoute de ce qu'elle raconte et de ce qu'elle a vécu. Le choc est immense, comme si en fait l'heure, le temps, tout avait arrêté de tourner. Un stop, mais aussi dans ma tête, tout en posant des questions, des flashbacks d'événements qui se sont passés suite à ces réponses. Et aussi, parfois, de dire « Ah, ben oui, elle était... » Moi, je croyais qu'elle était stressée pour telle et telle chose, pour un examen, pour une entrée en seconde, mais elle n'était pas stressée que pour une simple entrée en seconde d'un collégien à devenir lycéen. J'ai des éléments de réponse dans ces questions par rapport à des comportements qu'elle a eus au collège, mais donc je n'avais pas vu et décrypté le pourquoi. J'ai la réponse à mes pourquoi. Je ne ressens pas de la culpabilité, étant donné que je suis présente et vigilante à ce qu'elle fait, je n'ai pas de culpabilité. Ce qui paraît peut-être un peu bizarre, et je ne me sens pas coupable de ne pas avoir vu. Pour moi, je ne pouvais pas voir dans son comportement. Et elle me le confirme. Par contre, je me sens blessée. Je ressens le mal qu'elle a subi, en fait. Comme si un peu, on me l'avait fait à moi. L'appel dure 3 heures.
Dès la fin de cette conversation, je sens que ça va être le départ d'une nouvelle vie, de ma vie, finalement, qu'on m'a enlevé et qu'on m'a empêché de vivre jusque-là, et que je me suis empêchée de vivre jusque-là. C'est de la joie, finalement, à la fin de cette conversation, alors que ça aurait pu être complètement le contraire.
Je me dis, maintenant, il faut qu'elle passe à autre chose. Donc, je lui propose d'aller voir un médecin, un psy. On veut la faire passer à autre chose, et on est sûr, tous les deux, avec son papa, qu'elle va s'en sortir, et on fait tout pour lui donner les moyens de s'en sortir.
Je les ai rendus aveugles volontairement, donc je ne peux pas aujourd'hui leur reprocher de ne pas avoir vu. Je ne peux pas leur reprocher d'avoir volontairement occulté une partie de ma vie. J'ai aucun sentiment d'amertume, même aujourd'hui, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais voulu à mes parents. Je pense que, honnêtement, je ne leur en voudrais jamais, je ne peux pas leur en vouloir. Par contre, je suis en colère contre moi, parce que quand je leur parle, je vois qu'ils sont finalement un peu dépossédés, mais qu'ils ont la volonté de m'aider, et qu'ils auraient eu dès le départ la possibilité de m'aider, et que j'ai refusé de leur tendre la main. Donc je m'en veux, parce que je me dis, si dès le départ tu avais demandé de l'aide, peut-être que tout n'aurait pas dégénéré comme ça l'a fait. On ne serait pas allé aussi loin, t'aurais pas eu ces pensées noires, t'aurais pas vécu tous ces traumatismes, t'aurais pas toutes ces phobies qui te hantent tous les jours et qui t'empêchent de vivre correctement. Donc je m'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment le travail avec ma psy qui m'a permis de comprendre que j'étais dans une atmosphère dans laquelle finalement je m'empêchais de parler, mais les gens aussi volontairement m'empêchaient de parler. Donc c'est pas à moi qu'il faut en vouloir. C'est pas moi qui ai frappé une enfant, qui ai essayé de la violenter, qui lui ai lancé des insultes. Donc finalement, je n'en veux ni à mes parents, ni à moi.
Actuellement, on le vit comme une étape. Ça a été une étape. Voilà, là, c'est fait, c'est acté, on ne l'oublie pas. Maintenant, je sais. J'y pense quand même souvent. Donc, je pense la connaître et ça me permet de connaître un autre angle. On a tous et toutes peut-être une face cachée. Donc, cette face cachée, ça me permet de plus la connaître. J'ai plus de clés pour la comprendre. J'ai plus de clés pour analyser ou pour, alors sans faire de l'analyse, mais pour comprendre un comportement, une réaction. J'ai plus de clés. On peut se sortir en se reconstruisant, mais en étant aidé et soutenu.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Capucine Rouault. Charles de Cilia en a fait la réalisation et le mix. Louise Emerlet a coordonné la production de l'épisode. Maureen Wilson et Mélissa Bounois en ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello@louismedia.com. À très vite.
So
here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.